18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Et je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va parler d'un super match qui s'est déroulé ce week-end. Jean-Baptiste Marie est dans 100% Aiglon.
Salut Eric.
Salut Jean-Baptiste.
Oui, 100% Aiglon jusqu'à 19h, le 13e épisode de la saison de votre émission de radio 100% OGC Nice sur France Bleu Azur. Et effectivement, on va essayer de ne pas s'ennuyer ce soir, contrairement à samedi au match nul, mais victorieux des Aiglons, 1-0 contre Amiens. Un résultat tout de même très important, comptablement et moralement, puisque la semaine passée, les Aiglons ont signé un 3-3, une première cette saison. Et voilà, les Aiglons qualifiés en 8e de finale de la Coupe de la Ligue et désormais bien installé dans le top 10 du championnat. L'OGC Nice est 9e. Pour débattre du gym avec vous au 04 93 82 03 04, c'est Nadia qui vous accueille ce soir au standard. Vincent Menechini, journaliste à Nice Matin. Salut Vincent.
Salut JB.
Merci d'être là, Vincent. Sébastien Serrano, journaliste à Azur TV. Salut Seb.
Comment ça va?
C'est votre première de la saison à tous les deux.
C'est vrai.
On a vendu la 12e journée de Ligue 1 pour
vous avoir un micro de France.
Merci JB. On est des remplaçants de luxe.
C'est ça. Ouais. On aura des places à vous offrir pour le match France-Brésil de foot féminin. Ce sera samedi soir 21h à l'Allianz Riviera. Mais d'abord, le meilleur du pire match peut-être de la saison des joueurs de Patrick Vieira, c'était samedi soir sur France Bleu Azur. Le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant par les Amiénois. Oh, la mauvaise passe de Benitez. Oh, la frappe de Bonnemère et le sauvetage de Walter Benitez qui se rattrape. La tête de Mario Balotelli maintenant, celle de Danilo vers Willian Cyprien. La frappe de Cyprien. Oh, la parade de Gartner derrière. Elle était soudaine. Cette frappe du milieu de terrain d'OGC Nice, ça prouve qu'il est en confiance. Ça prouve à qui il se sent mieux, Willian Cyprien. Cyprien qui lance Miziane. Le bon contrôle de l'ancien Lyonnais à 25 mètres. Miziane, Maoulida qui essaie de faire de réparation, qui va accélérer. Miziane, Maoulida pour centrer.
Oh, le but
contre son camp. Oh, l'ouverture du score niçoise contre son camp.
Ouais.
Ça a été contré, ce centre de Miziane Maoulida à côté gauche. Mario qui décale pour Saint-Maximin, la frappe de Saint-Maximin suit peut-être. Oh, il tergiverse un petit peu trop, il va recentrer. Balotelli, la frappe.
Au-dessus, ouais, Mario.
Au-dessus,
non,
Mario.
Non.
Oh là là.
Non. Il a Mario voulu casser la cage. Alors qu'il a juste à la placer, Mario, il a voulu casser la cage. Malheureusement, ce ballon.
Il a cassé la tribune.
Il a cassé la tribune, parce que c'était très bien joué de la part de Mario. Ce ballon à Saint-Maximin qui élimine Gutner. Il remet le ballon dans l'axe. Elle est contrée, ça revient sur Mario, seul aux 6 mètres.
Et encore une fois, les Aiglons chahutés dans les duels.
Eh, faut arrêter de se plaindre, on fait que se plaindre, faut arrêter de se plaindre.
On croirait pas qu'on mène 1-0, Patrice.
Hein.
C'est ce qui nous sauve, hein, parce que dans ce match, les attitudes, elles sont pas bonnes. Hein. Et c'est la fin de cette partie. Sifflé par Monsieur Hamel. C'était nul, Patrice, on peut le dire.
Ah ouais.
Mais le GM a gagné 1-0.
Ça commence à devenir un petit peu la marque de fabrique. Verrouiller la maison à la fin et souffrir. Après, on sait qu'on doit s'améliorer là-dessus, mais le plus important, c'était de prendre les 3 points pour boucler une semaine très, très, très positive pour nous, avec la victoire à Bordeaux, la victoire contre Auxerre et la contre Amiens.
France Bleu Azur, 100% Aiglon, le débrief.
Voilà, on s'est ennuyé, hein, soyons honnêtes, Vincent, samedi soir côté OGC Nice, voilà, c'était loin d'être la meilleure prestation des joueurs de Patrick Vieira, peut-être même la pire, hein, depuis le début de saison.
Ouais, c'est vrai que pour les spectateurs, même pour nous les observateurs, ça a été une soirée assez décevante, même parfois très longue. Mais ça, à l'arrivée, ça fait 3 points et après le match, j'ai bien aimé malgré tout la réaction de Patrick Vieira qui a assumé d'avoir offert un spectacle assez pitoyable, mais d'avoir pris ces 3 points si précieux au vu du début de saison de l'OGC Nice. Il n'a pas envie forcément de voir son équipe jouer de la sorte, mais il a surtout envie de voir son équipe prendre des points et dans cette période avant Bordeaux, il y en avait vraiment un besoin urgent. Donc c'est une très bonne chose que Nice ait pris 6 points, même si c'est vrai que sur le plan du spectacle, ça a été très décevant.
Et ça change par exemple à l'image de Lucien Favre qui lui préférait persister dans son schéma tactique, faire du beau jeu en étant sanctionné parfois.
Attends, juste coupe sur le jeu justement que tu dis de Lucien Favre, c'est intéressant parce que si on se rappelle bien la première année de Lucien Favre, tu finis 3, mais la première partie de saison, t'as quand même un paquet de matchs que tu gagnes 1-0 sans offrir un spectacle.
C'est vrai.
Ouais, mais il y avait quand même les prémices d'autre chose.
Ouais, mais on parce a vu que... contre par exemple contre Dijon, tu fais vraiment un bon match.
Ouais.
Et t'en prends 4.
Compensé.
Vieira, il est plutôt, il connaît bien le ballon. Hein. Au bout d'un moment, c'est bien mignon de faire du bouger, mais si t'en prends 4.
Sébastien.
Ouais, je pense que effectivement Vieira est un garçon intelligent et qu'aujourd'hui il a vite compris et il s'est vite adapté. D'ailleurs, on a vu avec son système de jeu aussi. Il s'est vite adapté parce qu'il a compris qu'il lui fallait des points déjà pour pouvoir peut-être ensuite travailler sur autre chose. Là, il est dans une phase où il s'est aperçu qu'avec les moyens qu'il avait, les joueurs qu'il avait en sa possession sur la pelouse, il pouvait peut-être pas proposer autre chose pour l'instant. Alors ce qu'il a fait, c'est le constat était très clair pour lui. Il s'est dit bon, alors on va trouver autre chose. On va essayer d'être efficace. C'est pas toujours le cas, notamment devant, et on y reviendra peut-être. Mais cette efficacité, elle est comptable. Alors forcément, on s'est pas régalé ce week-end. Alors merci parce que grâce à vous, j'ai dû revoir le match que je n'avais pas vu. J'étais passé à côté de cette purge. Et du coup, j'ai dû le revoir
avec
pour
plaisir.
En parler ce soir.
Avec plaisir.
Donc merci déjà. Mais voilà, les points sont là et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est grappiller des points pour rester dans le bon wagon en Ligue 1.
Allez, on va en reparler avec vous. On vous attend 04 93 82 03 04. On ira voir Renaud dans un instant. On est déjà très nombreux sur la page Facebook France Bleu Azur 100% Aiglon. Votre émission 100% Aiglon Nice revient juste après ça.
Les actus, les polémiques, les analyses. 18h 19h. 100% Aiglon, l'émission. France
Bleu. Demain matin, avant les infos de 7h, profitez des conseils et des bons plans des filles du web. Pas le temps de tout regarder sur Internet ? Elles le font pour nous. Les nouveautés, les bonnes adresses, les astuces pour faire des économies, les idées pour occuper les enfants. Les filles du web de France Bleu Azur, c'est demain matin, avant les infos de 7h.
Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Mais ça coûte cher. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy.
86% des dépenses d'Action contre la faim sont investies dans des missions partout dans le monde. Léguées à Action contre la faim, vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur le legs au 01 70 84 84 84.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Puis je dirais à quelques abrutis des tribunes.
Voilà notre petit Lulu Favre qui nous parle des abrutis des tribunes. C'est pas ce que je veux dire pour qualifier les spectateurs qui étaient présents à Riviera, mais on a entendu des sifflets, Vincent, beaucoup de sifflets samedi soir, ce qui est plutôt rare quand même à l'Allianz Riviera.
Et surtout après une victoire, mais on peut comprendre les gens. Ils se sont déplacés pour un Nice-Amien qui, sur le papier, franchement, faisait envie à pas grand monde. Et t'as le droit de manifester quand t'es pas content du spectacle proposé, tout simplement. Après, en fin de saison, personne ne se rappellera que t'as fait un match pitoyable, mais que t'as pris 3 points. Et ces 3 points, au final, ils sont très importants dans la dynamique actuelle. Avant Bordeaux, on avait fait un petit bilan chiffré, c'est William Ambercé, mon collègue de Nice ce matin. Patrick Vieira était en train
le meilleur,
de faire
l'un des... même.
Comment ?
Le meilleur par rapport à Puel, en tout cas, par exemple.
Ben non, justement, non. En termes de points, c'était
oui, en termes de points,
pire bilan comptable.
Mais je crois que c'était quand même mieux que Fabre, l'année dernière.
Voilà, oui, mais, voilà. Mais sur le début. La première saison, tu vois, c'était du style un petit peu comme les débuts d'Oli Nicole, sans faire une comparaison. Mais Vieira, voilà, il s'est rendu compte qu'il fallait vite prendre des points pour s'accrocher à ce wagon de tête parce que personne vraiment ne se dégage pour l'instant.
Alors, juste qu'il y a sur la page Facebook, Axon nous dit alors on a fait un match pourri, c'est vrai, mais bon, ça compense les matchs où on avait été bon et on n'avait pas pris de points. C'est aussi ça qu'il faut se dire,
c'est
Sébastien.
La fameuse phrase, c'est un peu comme l'arbitrage, ça s'équilibre. Oui, ça s'équilibre certainement. Moi, je comprends, pour revenir sur les sifflets, je les comprends et je suis le premier à m'agacer des performances moyennes, voire très moyennes comme celle de samedi. Après, c'est vrai qu'on a parfois tendance dans le foot en général, ici peut-être un peu plus, mais je pense que c'est partout pareil, à avoir la mémoire assez courte. L'OGC Nice a vécu des saisons incroyables avec Claude Puel et Lucien Favre, mais aujourd'hui, l'OGC Nice est reparti sur de nouvelles bases, sur un nouveau cycle. Il faut pas l'oublier non plus. Il faut vite prendre des points pour pouvoir espérer, comme je disais tout à l'heure, voir autre chose au stade. Mais voilà, gardons en mémoire que ce qu'on a vécu pendant 3-4 saisons a été exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sera pas tous les ans comme ça. L'OGC Nice reste encore, même s'il évolue, reste l'OGC Nice.
Allez, on va accueillir Renaud qui nous appelle depuis Nice, fidèle de l'émission. Salut Renaud.
Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir Sébastien, bonsoir Vincent.
Bonsoir, tu as réussi à chanter pendant tout le match à l'Allianz Riviera samedi soir?
Non, chanter, t'aimes bien grand mot. je suis pas allé jusqu'à siffler non plus. Mais bon, je trouve quand même qu'on est. Enfin, le constat est un peu dur parce que c'est la première fois qu'on enchaîne 3 victoires depuis le début de l'année.
Ouais.
Il faut quand même être un peu indulgent. C'est vrai que voilà, on n'a pris aucun plaisir, hein, que ce soit mercredi ou samedi, ça a été très compliqué. Maintenant, c'est vrai que on peut quand même être heureux de prendre 6 points sur 2 matchs. On a un match à Nîmes qui peut nous conforter encore un peu plus dans la première partie de tableau. Donc je pense que c'est ce qui manque à ce groupe. Il faut que ce groupe soit un peu dans une certaine tranquillité au niveau au niveau comptable, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et moi, c'est vrai, ce que j'aime bien avec le coach, c'est qu'il est quand même assez réactif et qu'il arrive quand même vraiment à se retourner assez rapidement. Et c'est tout à son honneur. Et maintenant, c'est vrai qu'il fait avec l'effectif qu'il a pour le moment. On a quand même un Esmelou qui, malgré tout, et ben, il était souvent décrié, mais cette année, ben, on s'aperçoit que quand il n'est pas là, ça laisse un trou énorme au milieu de terrain.
Ouais, clairement.
Moi, j'ai bien aimé, honnêtement, Cyprien, Maoulida qui a claqué son premier but mercredi en coupe. Cyprien qui commence à retrouver un peu des jambes, donc petit à petit ça va se mettre en place. Mais bon, on a une équipe qui a été renouvelée assez fortement. On a un nouveau coach qui vient d'arriver, c'est sa première année. Donc il faut, je pense, quand même être un peu indulgent, même si c'est vrai que samedi soir c'était vraiment très 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 ennuyeux.
Sébastien, bien, je reviens sur le cas Cyprien et il a raison Renaud, et ça fait plaisir de le
revoir. L'une des rares satisfactions peut-être de cette partie.
Ouais, et pas que de cette partie, parce que ça fait quelques matchs qui commencent à revenir. Alors forcément, Patrick Vieira en avait fait peut-être en arrivant sur le papier, en tout cas, un de ses cadres du milieu de terrain, notamment pour remplacer Mika Seri. Il se trouve que le costume a peut-être été un petit peu dur à endosser, un petit peu compliqué à
grand, parce que Mika Seri était plus petit que Willa Cyprien.
Ou alors il était trop serré. Mais c'est vrai qu'il tarde en tout cas à prendre ce rôle de patron du milieu, parce qu'on a besoin d'un patron aussi au milieu. Je pense que ce sera lui, et ça doit être lui. Mais voilà, il ressort la tête de l'eau et ça fait du bien.
Et l'absence de Pierre Lesmélou aussi,
ouais, mais bien sûr,
qui coûte un énorme.
Je comprends pas toujours pourquoi ce garçon est aussi décrié, alors que sur la durée, même la saison dernière, il fait quand même, je trouve, des vraies bonnes performances. Alors c'est vrai que quand il se rate un peu face à la cage, à chaque fois, c'est assez monstrueux. Donc c'est vrai que...
Mais c'est souvent du manque de lucidité, parce qu'il compte énormément.
On en parlait
de Christophe,
il apporte tellement de choses dans l'activité, sur le plan offensif, même des courses qu'on voit pas toujours. Mais pour venir ce que disait Seb sur Willian Cyprien, ça s'explique aussi, lui aussi, par l'énorme blessure qu'il a eue en mars aussi, 2016, où il avait vraiment eu un genou complètement explosé. Il a eu le contre-coup logique de cette première préparation depuis 2-3 saisons. Je le trouve aussi un peu plus affûté là depuis quelques semaines, et forcément ça se ressent sur le terrain. On le voit plus dynamique, plus rapide, plus véloce, et j'ai bien aimé aussi le match du petit Misiane, lui aussi décrié parce que il a coûté 10 millions d'euros, parce qu'il y a énormément d'espoir autour de lui. Mais après c'est un avis personnel, c'est un gamin qui me plaît, parce qu'il a vraiment un truc, je trouve, sur le plan technique, et j'aimais beaucoup les prestations de Pléa, mais je le trouve bien mieux que Pléa.
Oui, c'est vrai. Mais il y a des similitudes
à son arbre. Quand Pléa est arrivé, bien sûr. Hein, attention.
Les similitudes, c'est le manque d'efficacité, malheureusement, devant le but. On se souvient tous d'Alas à qui il fallait 4, 5, 6 occasions pour en mettre une. Après, Misiane Maoulida, il a un petit peu à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a du mal à satisfaire, en tout cas, quand on analyse vulgairement, j'allais dire, entre guillemets, un match. Mais il marque des points. Parce qu'il fait des passes décisives, il est impliqué,
moi je trouve qu'il se passe un truc quand il a le ballon, ce gars-là.
Ouais, je suis un peu plus sceptique, j'attends. On a évoqué le montant du transfert. Je pense que le problème, il est là, c'est que ce montant-là va le suivre un petit peu, et c'est ça qui dérange.
Ces gamins aujourd'hui, t'as l'impression que franchement, les prix des transferts, même tout ça, franchement.
Pas pour lui, hein. Je parle pour le public. Le public, il va dire, à 10 millions d'euros, on attend autre chose.
Il a l'air assez tranquille, bien sûr. Mais il a un truc.
Alors, avant d'en parler avec vous, messieurs, on va poser la question à Renaud. Renaud, sur le jeu, la qualité de jeu produit. Est-ce que là, en revanche, il faut s'inquiéter? 12e journée de Ligue 1, le gym n'est pas un beau gym, c'est la dernière sortie. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter, ou encore une fois, c'est juste de passage, et en tout cas, ça permet de prendre des points pour l'instant?
Non, inquiet, enfin, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il faut quand même être... il va falloir être beaucoup plus patient que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Sébastien l'a très bien dit, on a eu 3 ou 4 années, mais vraiment, où on était vraiment au summum de ce que pouvait proposer le football. Maintenant, on a un groupe qui est vraiment très jeune. Il faut passer, je pense, et par des erreurs et par des fautes pour apprendre. Malheureusement, des fois, nous, on fait vraiment de très grosses fautes qui peuvent nous coûter très cher. Malgré tout, je suis pour que le coach continue à avoir cette volonté de jouer, à repartir de derrière, parce que c'est la politique qu'a essayé de mettre le coach Puel depuis à son arrivée, et il faut continuer à aller dans cette idée-là. moi je préfère quand même prendre et même si quitte à perdre, mais voir au moins du beau jeu. Là pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas gâté, mais il faut quand même que être derrière cette jeune équipe et puis laisser faire les choses, laisser prendre confiance et montrer surtout qu'ils peuvent s'appuyer sur le 12e homme qui jusqu'à présent est là par intermittence pour moi.
Merci Renaud de ton appel et faites comme Renaud, venez réagir avec nous à l'actu du gym au 04 93 82 03 04. Vincent Menichini, journaliste ce matin, je voudrais t'entendre là-dessus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter sur la qualité de jeu produit par le gym ces dernières semaines?
Parce que moi je trouve que les bases sont là. Il y a toujours cette volonté assez visible de repartir de l'arrière avec un joueur comme Dante qui quand même à 35 ans réalise un début de saison assez remarquable.
Ouais.
Mais après sur le match d'Amiens aussi, t'as en droit d'attendre aussi beaucoup plus de garçons comme Alan Saint-Maximin, de Mario Balotelli.
On va en reparler.
Parce que tu gagnes ce match avec tes deux éléments clés complètement absents. Ouais. C'est-à-dire que Saint-Maximin contre Amiens, il a fait tout ce qu'on veut pas voir de Saint-Max. Quoi. Ouais. C'est des choix. Il a été à l'envers comme il peut l'être parfois. Et c'est vrai que lui, il fait pas semblant. Quoi. Quand il est bon, il est exceptionnel. Mais quand il est pas bon,
il n'y a pas de juste milieu.
Il n'y a pas de juste milieu. Mario Balotelli, pour l'instant, c'est pas ça. Il a toujours pas marqué en 12 journées. Donc Balotelli, s'il commence à planter un peu des pions, ça va de suite aller beaucoup mieux. Mais Saint-Max, Balot, le vrai casse-tête de Vieira, moi, pour l'instant, c'est à ce niveau-là. Il faut qu'il arrive à les faire jouer ensemble. Sur le terrain, ils s'entendent bien dans le vestiaire, mais sur le terrain, c'est pas
un peu moins. Sur les réseaux sociaux, ça marche bien. Seb, en 30 secondes, sur le jeu niçois, est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Non, moi, je suis pas inquiet, déjà par rapport au classement à la Ligue 1, parce que la Ligue 1 est catastrophique et qu'on voit que l'OGC Nice, malgré tout ce qu'on peut dire depuis le début, en faisant une saison, un début de saison moyen, voire moyen, parfois très moyen. L'OGC Nice est à 2 points de l'OM, l'OGC Nice est à 5 points de Lyon. Alors certes, pour moi, l'OGC Nice ne jouera peut-être, après on peut avoir de bonnes surprises, mais peut-être pas une qualification en Europa League.
Parce que ça reste très serré quand même. Hein.
Mais c'est très serré derrière aussi, mais la Ligue 1 est tellement faible pour moi qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir pour l'OGC Nice. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens maintenant, en termes de jeu et de ce qu'on aimerait voir au stade, comme le disait Vincent à l'instant. On est en droit d'attendre plus contre ce genre d'adversaire qui parfois vient un petit peu regrouper, mais là, je suis pas sûr que l'OGC Nice ait donné... Mais on parlait de l'efficacité et offensive. Je pense que c'est offensivement, effectivement, on y reviendra. Je pense pas que l'OGC Nice donne aujourd'hui ce que, sur le papier, elle est en droit d'amener
avec la qualité des joueurs.
Bien sûr, forcément.
Je te rejoins dessus. Moi, je trouve que cet effectif, il a de la qualité.
Bien sûr.
Faut regarder en ce moment les milieux avec le retour de Pierre Lesmelou. Ça va être intéressant. T'as Mézé qui fait quand même un début de saison plus que correct.
Ça, c'est une bonne surprise aussi parce un titulaire, j'aurais pas mis beaucoup de sous sur la table.
Le petit Makengo qui a répondu présent quand on a fait appel à lui. Rémi Valter que je trouve très bon à chaque fois qu'il joue, et il joue très peu.
Très impliqué.
Cyprien qui revient bien. Lesmelou qui est un top joueur. Qui est un joueur sur lequel vraiment tu peux t'appuyer. Danilo, pour l'instant, on a vu, je pense, pas grand-chose du vrai niveau du Brésilien. Donc, t'as l'effectif pour moi, franchement, de faire top 5. Vraiment.
Il faut encore laisser un peu de temps et ça va prendre, on en est sûr. Il le faut, de toute façon.
Top 5.
18h-19h. 100% Aiglon. L'émission.
Allez, on vous attendait à voir Bernard dans un instant, Adèle également, 04 93 82 03 04. Et dans la prochaine demi-heure, je vous offrirai deux places pour aller applaudir l'équipe de France féminine qui affrontera le Brésil. Ça sera ce samedi soir à l'Alliance Riviera à 21h.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
On en parle.
Avec le prélèvement à la source en janvier, quel taux faut-il choisir? Les explications dans un instant avec Denis Putkovnik du Centre Impôt Service de Lille.
Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ».
Vous et moi, on se connaît depuis longtemps. On a beaucoup ri ensemble. Mais je ne vous ai pas tout dit. De moi, de mes fragilités, qui sont peut-être aussi un peu les vôtres. Ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Mais j'y ai mis aussi et surtout, tout mon cœur.
« Fragile » de Muriel Robin, un livre XO.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Bon, on va quand même essayer de trouver le positif, comme dirait Thierry Henry en ce moment. Hein. Comptablement, le gym est enfin récompensé, n'est plus malheureux. Mentalement aussi, ça compte avec cette série de 3 victoires consécutives. Et comme le dit l'excellent Franck Ribéry...
Mais j'espère que la retourne va... La vie de tourner pour lui et surtout pour nous.
Bon, alors c'est plutôt pour le GC Nice que la roue tourne, justement. On a posé la question à Christophe Jallet, et évidemment il partage ce sentiment de voir Nice enfin récompensé, en tout cas comptablement, par rapport à un début de saison plus que délicat.
Au début de saison, on avait un peu moins de réussite qu'en ce moment. Voilà, la roue tourne. Si elle tourne, c'est parce qu'on fait les efforts pour, c'est parce qu'on s'en donne les moyens. Donc voilà, on sait qu'on est encore perfectible largement. On a un effectif qui est jeune, qui apprend. Et c'est de bon augure pour la suite de pouvoir enchaîner 3 victoires de suite. Ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Donc voilà, on prend volontiers, on garde ce résultat et on va s'en servir pour travailler encore plus et être encore meilleur à partir de la semaine prochaine.
On a discours du sage, Christophe Jallet, Vincent Minichini.
Contre Amiens, je trouve que tu fais vraiment un très mauvais match sur le plan de l'animation offensive, mais tu fais quand même très peu d'erreurs défensives. Et ouais, ça change quand même pas mal.
Deuxième clean sheet dans la semaine après Bordeaux.
Bon, après à Bordeaux, c'était un peu
différent.
Quand même beaucoup plus miraculeux. Mais contre Amiens, malgré tout, tu concèdes pas beaucoup d'occasions et tu fais peu d'erreurs. Contre Marseille, ce match-là, tu dois jamais le perdre. Tu concèdes l'ouverture du score parce que le petit Attal qui est flamboyant quand il est dans le camp adverse, mais sur le but de Sanson, il fait un peu n'importe quoi, il se jette alors qu'il doit jamais se jeter. Et j'ai vu en fin de match, Dante, il est allé le choper, le petit lui a dit « Bon, maintenant, au bout d'un moment, il faut verrouiller ton couloir et arrête, quoi, tu te calmes. » Dante, pour lui, ça doit être quand même compliqué des fois de jouer avec tous ces joueurs qui adorent
aller
vers
l'avant. Parce que ce mec-là, Attal, tu parles d'Attal, il a les défauts de ses qualités, quoi.
Ouais, bien sûr.
C'est que c'est un mec qui est complètement fou. Offensivement, il peut te créer une étincelle à tout moment, il peut tenter des trucs qu'aucun arrière latéral n'aurait imaginé faire. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, quand ça part dans son dos, quand il faut défendre et quand il faut faire preuve d'un peu plus de rigueur, ouais, là,
c'est
par
plus
contre,
en termes de rigueur,
attention.
Parce que il est solide dans les duels, il va haut. Il a tout pour être un bon défenseur aussi. Mais pour l'instant, il fait des grosses erreurs. Ah ouais. Et un garçon comme Jallet, on voit même, il a 35 ans, mais il n'en fait pratiquement jamais des erreurs.
Mais ouais. Moi, Jallet, on ne touche plus à Jallet. Moi, Jallet, pour moi, ça y est, c'est
mis à part le petit centre.
Bah,
c'est, mais voilà, ça arrive parfois. Mais là, c'est offensivement.
Voilà,
touche pas à Jallet. Non, mais j'adore Christophe Jallet. J'étais pas un grand fan, pour être honnête, de Christophe Jallet. Quand j'ai vu arriver à Nice, je dis voilà, qu'est-ce qu'il
a
fait.
On parlait vraiment de la.
C'est un vrai taulier. Et je l'ai souvent dit à ce micro. Il a manqué énormément en fin de saison dernière.
Bien sûr.
Un joueur comme Jallet, en plus de Dante, aurait peut-être permis au gym de voir un petit peu plus
bien
haut.
Sûr.
On va encore écouter une interview avant de passer aux infos et de retrouver Bernard juste après les infos de 18h30. Willian Cyprien, qui revient bien. Willian Cyprien, buteur à Bordeaux. Et voilà, il le constate comme nous. C'est vrai que le gym s'installe doucement, mais sûrement dans le top 10 de la Ligue 1, mais ça ne suffit pas pour le milieu de terrain niçois.
C'est pas une fin en soi, qu'on soit heureux de ça, mais prendre ce qui n'a pas été surtout et le pointer du doigt pour le perfectionner, parce que sur le long terme, je pense pas que ça va être efficace. Après, maintenant, il faut qu'on s'en serve, surtout sur le plan moral, sur le capital confiance, pour continuer de l'avant et tenter de plus de choses qui vont certainement réussir et jouer plus libéré, maintenant qu'on a réussi à grappiller ces 6 points, mais je suis pas inquiet pour la suite, ça va monter progressivement. On voit que le championnat, il est très 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 serré, que ça soit de derrière ou de devant. Il y a 2 journées, on n'était pas loin de la 17e, 18e place. Donc on voit que c'est très serré et continuer à surfer sur la vague de la victoire qui nous réussit en ce moment, enfin on va dire, et continuer à bosser. Il n'y a que par le travail que ça va passer.
Alors heureusement, il y a la lucidité aussi dans les propos des joueurs niçois hein, qui ont bien avoué avoir fait une piètre prestation contre Amiens, mais savoir que voilà, avec le travail, ça va venir.
Mais c'est rassurant parce que quand on écoute certains discours d'après match, après victoire ou défaite d'ailleurs, c'est assez fatigant d'entendre des joueurs qui te disent à chaque fois oui, mais on va continuer de travailler, puis point barre. Oui, mais à force de, ça va marcher. Non, là, il y a quand même une remise en question si on lit entre les lignes, et on sait très bien que les joueurs, les premiers, ne sont pas forcément satisfaits de ce qui est proposé.
Bien sûr, la lucidité, et on le voit, et petit à petit, d'ailleurs, on parlera d'Amiens en fin d'émission, hein, de Nîmes, pardon, qui sera le prochain déplacement, mais il faudrait vraiment bonifier cette bonne semaine par un succès au Costière, et histoire d'être tranquille avant la trêve
ouais.
Et de préparer, en tout cas, Patrick Vieira aura ses joueurs à disposition pendant 15 jours pour préparer la dernière ligne droite avant la fin de la saison, en tout cas de la phase aller, qui s'achèvera à la mi-décembre. 100% Aiglon, on revient dans un instant.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
Pour l'heure, il est 18h30, l'essentiel de l'actualité en ce lundi soir avec Justine Leclerc.
Et les secours qui vont rester toute la nuit à Marseille après l'effondrement de 2 immeubles ce matin, vétustes dans le centre de Marseille, quartier Noailles. Par sécurité, cet après-midi, un 3e bâtiment a été démoli. Les 2 bâtiments sont censés être vides, mais les autorités ne sont pas sûres, d'où ces recherches. Précisions dans le journal de 19h. La ville de Nice va accueillir un centre régional pour la prise en charge du psychotraumatisme traumatisme. Décision de la ministre de la Justice, saluée aujourd'hui par le maire de Nice, Christian Estrosi. Ce dispositif devrait permettre d'améliorer la prise en charge des victimes. Déception pour les habitants de Pont-à-Mousson en Lorraine. Ils espéraient apercevoir le président de la République, mais Emmanuel Macron s'est contenté aujourd'hui d'une réunion avec les élus. Depuis hier, le chef de l'État a entamé une tournée en hommage aux poilus à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Une grande collecte d'ailleurs de souvenirs de la Première Guerre mondiale est en cours dans les Alpes-Maritimes. On en reparle demain matin sur France Bleu Azur. Le maire d'Ascrosse, lui, lance un appel à l'aide. Il recherche des familles pour repeupler son village et maintenir l'école. Témoignage demain matin à 8h10. Et puis début de la route du Rhum compliqué pour les skippers. Plusieurs avaries déjà sur les trimarans. Et demain, avec la tempête annoncée, certains navigateurs sont orientés vers Brest.
Merci Justine Leclerc. Prochain rendez-vous avec l'info, ça sera France Bleu soir à 19h. 18h32 minutes. La météo avec vous, Eric Charret.
La météo de votre soirée et de votre journée de demain mardi. Alors pour ce soir et cette nuit, des pluies qui seront de plus en plus fortes au fil des heures. Et puis demain, une journée placée sous le signe des averses là aussi. Hein. Faibles et éparses le matin, elles vont devenir plus fréquentes et plus fortes l'après-midi avec des orages très régulièrement de la mer à la montagne. Température maximale 14 degrés sur le bord de mer. On ira jusqu'à 16 degrés dans l'intérieur à Grasse demain après-midi.
On fait la route ensemble sur France Bleu Azur. Vos conditions de circulation à Nice, on va le savoir grâce à Hervé Grunewald au PC Malraux. Hervé, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Encore quelques difficultés à signaler hein, sur la voie Matisse en direction d'Acropolis. Actuellement, vous freinez entre les Bosquets et Saint-Philippe et vous freinez à nouveau à l'entrée du tunnel Malraux. Dans l'autre sens, toujours cette complication donc entre le tunnel Malraux et la sortie Magnan. À noter également sur la pointe des Anglais en direction du port, vous freinez au niveau de Magnan.
Merci Hervé. Les difficultés à vous signaler également sur l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence. Vous êtes ralenti entre la sortie de l'A500 lorsque vous arrivez sur l'autoroute A8 et l'échangeur Nice-Lariane. Un petit peu plus loin, ça coince entre la sortie Cagnes-sur-Mer et la sortie Villeneuve-Loubet-Plage. Vous êtes ralenti également au niveau de l'échangeur et du péage d'Antibes jusqu'à la sortie Mougins. Dans l'autre sens, en direction de l'Italie, un ralentissement également vous signaler entre Villeneuve-Loubet-Plage et la sortie Cagnes-sur-Mer. Et puis, autre bouchon classique à cette heure-ci, à hauteur de l'échangeur Nice-Saint-Isidore et la sortie Nice-Quartier-Nord. Si vous constatez une autre difficulté, vous nous appelez au 04 93 82 03 04.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
Avec Vincent Melichini, journaliste à Nice ce matin, et Sébastien Serrano, journaliste à Azur TV, qui sont avec vous ce soir pour parler de GC Nice. Et on accueille Bernard. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bienvenue dans 100% Aiglon, on vous écoute.
Oui, vous êtes très enthousiaste et ça me fait du bien parce que j'étais vraiment très dépité, comme beaucoup, beaucoup de supporters à la fin du match.
Ouais. On est là pour remonter le moral, vous inquiétez pas, on est remboursé par la Sécu.
Jean-Baptiste, vous, si les joueurs avaient autant d'enthousiasme que vous à commenter, je crois que ça irait beaucoup mieux.
C'est gentil, c'est gentil.
Et je dis aussi que ne sentez-vous pas, vous, par rapport aux non-performances de certains grands joueurs qui sont bien payés, surpayés, que les autres sont un petit peu écœurés de ne pas les voir se donner un peu plus?
Alors, on pense notamment à Mario Balotelli. Alors, restez avec nous, Bernard. On va en parler. D'abord, sur l'aspect psychologique de ce qu'on dit, Bernard, Vincent Melichini, est-ce que le salaire peut, à un moment ou un autre, entrer en ligne de compte dans un vestiaire? Surtout quand on parle de Mario Balotelli, qui est quand même la star de cette équipe.
Moi, je pense que, évidemment. Bah, c'est évident que quand un joueur gagne autant d'argent et qu'il n'est pas performant, c'est évident que ça peut attiser un petit peu certaines jalousies.
Après, il est pas réservé Balotelli. Hein.
Non, mais je sais même pas si c'est moi. Enfin, je me mets à la place d'un joueur du gym aujourd'hui, d'un joueur moyen, on va dire. Je sais même pas si c'est le salaire. C'est-à-dire que moi, je vois un joueur, c'est Mario Balotelli, ne serait-ce que par ce qu'il représente déjà avant de parler salaire. T'es censé être notre leader, quoi. T'es resté, on a fait toi le patron devant. J'ai envie que tu te bouges.
D'exemplarité.
Voilà, j'ai envie que tu te bouges, mais là, sans parler salaire. Hein. Vraiment, bouge-toi parce que t'es censé être le patron devant. On a besoin de toi, mec.
Il y a le salaire qui entre en jeu, mais comme dis, il a un devoir d'exemplarité sur le terrain et en dehors. Mais quand on voit l'attitude de Saint-Maximin qui trace directement au vestiaire quand il se fait sortir, c'est aussi pour dire.
Balotelli, pareil, hein.
Directement. Du coup, il fait pareil parce que c'est vrai que comme il a été super bon, il n'avait pas besoin de rester avec ses copains. mais Saint-Maximin, dans son attitude, on se rend compte aussi qu'il est agacé. Aussi de sortir en premier. Parce qu'entre Balotelli et Saint-Max, il y avait match à ce moment-là.
Ouais, mais il fallait sortir les deux parce qu'ils étaient au même niveau.
Non, mais voilà, mais c'est toute la psychologie d'un, d'un joueur qu'il faut gérer, c'est pas évident. Viera,
je pense que Viera ne laissera pas passer, par contre.
Bah, les informations qu'on a eues, c'est dès la fin du match.
Déjà, dans le secret du vestiaire, ouais.
Voilà, vraiment, il les a recadrés après le cri de victoire. Il leur a dit, voilà, vous l'avez fait une fois,
pas deux.
Mais pas deux. Mmh. Et ça, franchement, c'est tout à son honneur, parce qu'il vraiment,
il met tout le monde au même niveau, quoi.
Vraiment, ouais. et c'est pas de la com, il s'est pas privé.
Il a pas
laissé Balotelli à la bien maison sûr. Contre Toulouse, contre le PSG, il avait mis sur le banc sans lui donner aucune explication. Donc voilà, pour l'instant, il est régulier dans ses choix. Il donne le loisir à beaucoup de joueurs qui jouaient pas beaucoup de
se montrer. Ouais,
donc moi, je trouve que c'est bien plutôt.
Bernard, est-ce que vous pensez que Mario va se remettre la tête à l'endroit et va enfin mettre un pied derrière l'autre, ou est-ce que vous êtes un peu voilà circonspect ou inquiet sur la saison 3 de Balotelli à Nice?
Oui, je serais très dubitatif parce que je ne sais pas si vous avez analysé le caractère de ce monsieur Mario, mais je crois que, étant donné que le public le siffle, l'enfonce et ne fait rien pour lui demander d'une façon plus théâtrale dans la tribune, Mario, donne-toi tout. Lui, il se renferme sur lui-même, il se bloque, et je crois qu'il fera pas mieux qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Mario, il faut attendre qu'il y en ait un autre PA qui lui montre le chemin. Et pour l'instant, en attaque, le recrutement pour moi est un petit peu fautif aussi de tout ce qui se passe. Vous savez, on respecte pas les Puel, on respecte pas les Fabre qui ont mis une équipe en place et qu'après le recrutement, un certain bureau a démoli. Cette équipe, elle a été démembrée complètement. Faut repartir
à zéro. On est d'accord, Bernard, mais là où je vous suis pas vraiment. Et il y a deux lectures avec Mario Balotelli. Alors sur le mercato, on peut en reparler encore à chaque journée de championnat. Il y a pas de souci, on refera pas l'histoire. Et effectivement, on a perdu beaucoup de joueurs. Non, effectivement, on a eu du mal à les remplacer.
Puel et Favre ont aussi profité d'excellents joueurs. Attention, donc.
Oui. C'est ça. C'est pour ça. Ils ont plus le même effectif sur le terrain. Mais par rapport à Mario Balotelli et à ce que disait Bernard, il y a deux lectures. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut baisser la tête et dire de toute façon, je m'en fous. Mais Mario Balotelli, je le vois aussi comme un mec qui a juste envie de fermer les bouches et qu'au bout d'un moment, il va se dire bon, je plante, je fais taire tout le monde et surtout, il a un intérêt. Déjà, en ayant fait deux saisons magnifiques à l'OGC Nice, on a vu que ça s'est pas bousculé au portillon au mercato pour Mario Balotelli.
Stat, hein, 26 buts en 38 matchs la saison passée, 17 buts en 28 matchs la première saison.
Bon, il a pas tout joué, il a été suspendu en début de saison cette année aussi. Mais aujourd'hui, Mario Balotelli, il a aussi un intérêt à marquer parce qu'il veut partir. Enfin, il va vouloir partir au bout d'un moment, c'est certain. Je le disais, cet été, ça s'est pas bousculé pour recruter Mario Balotelli. Alors qu'il avait
l'Euro avec l'Italie aussi dans
mais
deux ans.
Il avait deux belles saisons derrière lui au gym, et pourtant, voilà, ça c'est les clubs se sont pas précipités sur lui. Donc aujourd'hui, je le vois plus comme un mec qui va dire voilà, moi, ok, je peux être sifflé, je peux être critiqué. Maintenant, je vais vous faire fermer vos bouches et je vais marquer. Et ce sera tout bénef pour l'OGC Nice. Après, je m'en fous qu'il fasse la tronche. Franchement,
on commence à marquer. Puis on attend plus que ça, en tout cas, de la part de Balotelli. 6 matchs cette saison, dont 5 titularisations, 469 minutes sur le terrain, 0 but. Son dernier but, c'était sur pénalty le 12 mai dernier face au Stade Malherbe de Caen. Merci Bernard de votre appel dans 100% Aiglon. Merci de votre fidélité. L'émission se poursuit jusqu'à 19h. Avant de retrouver Laurent Barra, on vous invite avec France Bleu Azur à applaudir l'équipe de France féminine de football. Il y aura la Coupe du Monde l'an prochain, vous le savez, Allianz Riviera. Il y aura 4 matchs, 3 matchs de poule, 1 huitième de finale et même un 5e avec la 3e place quand même qui se passera chez nous.
C'est énorme.
Et parmi les matchs de poule, il y aura un match de l'équipe de France féminine. Et donc pour applaudir les Bleus face au Brésil, une question pour parler d'un illustre France-Brésil, finale du Mondial 98. Les Bleus battent les Brésiliens 3-0. Mais qui a fait la passe décisive à Emmanuel Petit sur le 3e but français? Vous avez la réponse, 04 93 82 03 04. Qui a fait la passe décisive à Emmanuel Petit sur le 3e but français? On vous accueillera pour la bonne réponse, on vous le souhaite, après la chronique de Laurent Barra, tout de suite.
100% Aiglon, toute l'actualité de l'OGC Nice.
On en parle.
Le passage au prélèvement de l'impôt à la source en janvier soulève beaucoup de questions. On y répond aujourd'hui avec le ministère de l'Action et des Comptes Publics et Denis Putkovnik du Centre Impôt Service de Lille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a Fatou qui s'interroge sur les différents taux de prélèvement.
Effectivement, il y a plusieurs taux. Et sans démarche de votre part, c'est le taux personnalisé qui sera utilisé.
D'accord.
Il est calculé sur la base des revenus 2017 de votre foyer et sera automatiquement transmis à votre employeur.
Bien. Mais si on ne veut pas que ce taux soit transmis à l'employeur?
C'est votre droit. Dans ce cas, il faudra opter pour le taux non personnalisé qui correspond à celui d'un célibataire sans enfant. Il sera appliqué par votre employeur.
Oui, et on peut aussi opter pour un taux individualisé.
Oui, si vous êtes marié ou pacsé et que vous avez un fort écart de revenus, vous pouvez choisir d'être prélevé à des taux différents. Faites-le avant début novembre pour qu'il soit appliqué dès janvier 2019. Par la suite, vous pourrez changer votre taux à tout moment.
Denis Putkovnik, merci.
Plus d'infos sur impots.gouv.fr. On en parle.
France Bleu Azur, 100% Aiglon. Barra, tacle.
Allez, on va accueillir Laurent Barra pour sa chronique, son billet d'humeur chaque lundi soir. C'est comme ça dans 100% Aiglon. Et il parle de l'un des absents de l'équipe ce soir, Patrice Alberganti, qui était à mes côtés pour commenter le match. Voilà, je crois que Patrice Alberganti, si on écoute Laurent Barra, ce qu'on va faire maintenant, devrait rechausser les crampons. Bonsoir, Laurent.
Salut les amis, le football azurien va mal. L'OGC Nice gagne, mais regardez Balotelli et sa coupe qui donnerait la jaunisse à Franck Provost me donne envie de crever étouffé par un kebab. Non mais sans déconner, je vais pas remettre une couche sur lui, mais rappelez Jan Koskas, rappelez Poussin Mélin, rappelez Laurent Gagné, rappelez Patou Alberganti. Il ne faut pas vous fier à la hernie discale que lui a provoqué Denis Bergkamp sur un petit crochet extérieur lors du match des anciens de l'Ajax d'Amsterdam contre les anciens de l'OGC Nice. Hein. Bon, Patou, tu le mets en pointe avec Saint-Maximin qui tourne autour de lui et ça lui fera un peu la distance à courir autour de mon Patou. Le Patou, il va pas lâcher des yeux, le Alan. Hein. Ah, c'est sûr que l'occasion immanquable ratée par Pipo, mon Patou, il aurait mis au fond, lui. Hein. Je suis vraiment sérieux. Hein. Ouais. Je préférais voir Patou Alberganti à la place de cette dope de Balotelli. Et je veux bien financer moi-même sa cure à Merano. 3 semaines à bouffer des asperges et à se faire faire des bains de boue. Et tu vas voir s'il envoie pas à l'hospice le Bergkamp sur le match retour. Non, je vous parle de ça parce que hier au CFC, oui. Pierre Ménez a dit que Henry c'était bien pour Monaco, mais dommage qu'il n'était pas sur le terrain, quoi. Bon, je compare pas Henry à Patrice Alberganti, mais les deux avaient la même particularité, celle d'aimer le football. Première mi-temps, très assidu. Deuxième mi-temps, très assidu. Bon, mon Patou était tellement consciencieux qu'il était même assidu sur la troisième mi-temps, voire la quatrième. Monaco, ça va mal.
Ouais.
Très mal. Alors, putain, je vais trop rien dire là-dessus parce que leurs supporters, c'est des durs et je suis pas très courageux. Ça, attends. Oh, point levé, Rolex en l'air. Mouillez le maillot, mouillez le maillot. Où cassez-vous? Et cassez-vous? Les gars, ils vivent au bord de mer, ils payent pas d'impôts. Enfin bref, ça m'énerve de parler de tout ça. Écoutez, je vous laisse parce que je vais déraper et puis il faut que j'aille chercher un financement pour la cure à Merano. Allez, bisous les amis, Sanissa.
Salut Laurent, bisous, merci Laurent. Sanissa, la chronique de Laurent Barra, vous pouvez réécouter sur francebleu.fr. Avant de parler foot avec l'OGC Nice encore et notamment le prochain match déplacement à Nîmes, hein, une équipe qui a de l'envie hein, dans cette Ligue 1 et qui aime les gros. Si tant est, Nice est un gros, mais on peut le dire quand même sur le papier. En tout cas, c'est l'une des meilleures équipes du championnat de France. Oui, Sébastien, c'est vrai. C'est pas encore vrai dans les résultats, mais voilà, il y a de la qualité. On va peut-être inviter Eric à France-Brésil ce samedi soir. Eric, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous repose la question pour vous offrir vos deux invitations pour aller applaudir l'équipe de France féminine face au Brésil. Lors de la victoire des Bleus 3-0 contre les Brésiliens en finale du Mondial 98, qui a fait la passe décisive à Emmanuel Petit sur le troisième but français?
Le nouveau coach de l'OGC Nice, Patrick Vieira.
Allez, on va écouter ça, on va vérifier cela avec le commentaire de l'époque.
Allez, stop du Gary avec Vieira sur le côté gauche. Le voici, Patrick Vieira. Emmanuel Petit est monté.
Il va le mettre.
Emmanuel Petit.
Oui. Ouais.
C'est gagné pour l'équipe de France.
Bravo Emmanuel Petit.
3-0. La France est championne du monde.
Ah, quel régal. J'aurais rêvé de dire ça à la radio. Il y en a un qui peut le dire autour de nous. C'est Vincent Menichini qui a suivi l'équipe de France.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que l'équipe de France a été championne du monde.
En Russie. Il y a juste un petit écart de quelques centaines de milliers de kilomètres. C'était bien en Russie la victoire des Bleus, mais c'était l'épisode 2. Et la première étoile, effectivement, Eric, accroché pour ce troisième but français grâce à une passe D de Patrick Vieira. Vous en pensez quoi du nouveau coach du gym, Eric, après 12 journées de Ligue 1, après plusieurs mois sur la Côte d'Azur?
Je pense qu'il a révisé un peu ses ambitions, comme l'a dit un de vos consultants. Là. Il a été un peu trop ambitieux au départ, je pense.
Il y avait, je crois que c'était contre Dijon, où son arrière-droite a masé sur la phase offensive.
Ouais.
Il est rentré trop dans l'axe.
Ça avait été un raté, balle, ça, oui, effectivement.
Je pense qu'il a voulu jouer comme Manchester City, mais il s'est vite aperçu qu'il n'avait pas les mêmes joueurs. Donc, ben, il a cette intelligence de se remettre un peu en question et d'être un peu plus humble dans ses... dans la production de ce qu'il veut faire derrière.
Ouais, totalement. Et c'est vrai que ça prouve une grande intelligence, comme vous le dites, Eric. Et en tout cas, grâce à Patrick Vieira, donc, et la bonne réponse à cette question, vous serez à l'Allianz Riviera ce samedi soir, 21h, France-Brésil. Un avant-goût de la Coupe du Monde féminine de football qui aura lieu en France et notamment à Nice. Merci, Eric, de votre appel. Merci. Bravo, restez bien en ligne. Nadia vous explique comment récupérer vos places pour le match dans un instant.
Merci.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
18h46 sur France Bleu Azur. Adèle nous attend pour parler du match de Nîmes et on va le faire juste après la pub. On vous attend également au 04 93 82 03 04 pour parler de ce prochain déplacement, le dernier avant la trêve internationale, la dernière trêve internationale avant la fin de la phase aller pour cette année aussi 2018 en termes de football en France. On parlera donc de ce déplacement à Nîmes au stade des Costières. C'est un peu une sorte de derby, ou en tout cas il y a quelque chose, parce que on parle d'un derby entre Nice et Marseille. C'est encore plus loin, hein. Marseille, Nîmes, l'Hérault, voilà, pas loin que voilà.
On il est bon voir, même en géo,
ouais,
bon.
C'est des matchs du sud, quoi.
C'est ça, ça sent bon le sud.
Voilà, c'est autre chose que Guingamp-Rennes. Allez, à tout de suite.
On les embrasse.
100% Aiglon.
100% Aiglon. Toute l'actualité de l'OGC Nice.
France Bleu. 7h30, après l'info et la météo de la Côte d'Azur, commencez la journée par un sourire.
Je vous survivrai pour encore un an.
Tous les jours, une personnalité différente réagit à l'actu.
Alors cette chronique est la seule chronique remboursée par la Sécurité sociale.
Hein. À demain avec Hassan de Monaco.
Parce que faire la radio pour le 6-9h sur France Bleu Azur, si on l'a jamais fait, on peut pas comprendre.
Votre radio du matin, c'est France Bleu Azur.
Les éditions Radio France présentent 42e rue, la grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière. De Broadway à Paris, de George Gershwin à La La Land, en passant par West Side Story, Les Demoiselles de Rochefort ou Starmania, découvrez l'univers passionnant de la comédie musicale dans un livre référence illustré de photographies, de documents et d'interviews.
I'm dancing.
42e rue. La grande histoire des comédies musicales de Laurent Vallière, une coédition Radio France.
18h-19h, 100% Aiglon, l'émission.
18h48 sur France Bleu Azur, nous sommes toujours avec Sébastien Serrano, journaliste à Azur TV, et Vincent Menichini, journaliste à Nice Matin. On accueille Adèle de Nice, fidèle lui aussi de l'émission. Salut Adèle.
Oui, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à l'équipe.
Merci salut, d'avoir patienté. Salut. Prochain déplacement, ça sera donc à Nîmes, chez les Crocos, qui bien sont montés de Ligue 2. Nîmes, qui aime les gros, hein, Adèle.
Ouais, c'est ça, c'est sympa de retrouver cette affiche. Alors, petite question, savez-vous depuis quand ces deux clubs ne se sont pas retrouvés parmi l'élite à jouer un match de championnat?
Est-ce que vous avez la réponse? Sinon,
ah oui, j'ai la réponse.
Ah bon, bah allez-y, sinon j'allais chercher, mais dites-nous Adèle, bossez pour nous, c'est parfait.
Ça doit être dans les années 70. C'était lors de la saison 1980-1981 et nous avions gagné 3-1. À l'époque, alors je sais plus si c'était le stade des Costières, mais c'était à Nîmes.
Vous avez des buteurs ou pas?
Non, je plaisante, c'est pas obligé.
Il y a eu un D2 ou en coupe, non? Un 4-0, oui. Il me semble, dans les années 90.
Non, mais on n'est pas à l'élite.
On les avait pas joués.
Oui, c'était pas en D1, absolument.
Avec Jankoskas aussi, non?
Non, c'était en coupe quand on avait perdu 4-0.
C'est ça, hein. Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas, c'est sympa d'aller aux Costières, Adèle, non?
Oui, c'est
belles ambiances.
Il y a de l'ambiance, et puis, alors. Moi, je suis à titre personnel assez pessimiste sur la rencontre. Je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. C'est qu'en fait, Nîmes a un style qui ne nous convient pas. C'est une équipe qui met de l'impact dans les duels physiques, qui se projette très rapidement vers l'avant, et ça correspond pas du tout à notre style. Donc, je suis assez pessimiste sur le match de samedi. Si on ramène un point, ce sera déjà pas mal.
Mmh. Sébastien.
Ouais. C'est pas le Real Madrid, calmez-vous, je veux bien. À Nîmes, avant le succès à Dijon qui complètement à la ramasse en ce moment, on le rappelle. Vous vous souvenez du dernier succès de Nîmes? 19 août.
Ouais.
Alors certes, Marseille. C'était contre Marseille, qu'on a encore pris 3 hier, donc ça prouve la solidité de cette équipe
face
olympique de Marseille.
À Montpellier, même l'équipe voilà. Là, ce côté-là.
Mais Nîmes, c'est depuis 5 matchs nuls, 4 défaites, je crois.
Ouais.
Il faut arrêter de s'en faire une montagne. Alors certes, ils ont des valeurs. Ils me font d'ailleurs un peu penser à l'OGC Nice des années de la remontée, aux alentours de 2002-2003, avec pas forcément un jeu flamboyant, même s'il y a des joueurs qui sont pas fâchés avec le ballon. mais voilà, certaines valeurs, un stade un petit peu chaud, il y a des similitudes. Mais allons-y, alors peut-être pas tranquillement, parce que l'OGC Nice n'est pas non plus encore très rassuré ou rassurant, mais il y a moyen d'aller chercher au moins un petit point là-bas quand même.
Mais Vincent, c'est des équipes qui peuvent aussi gêner cette équipe niçoise, parce que notamment dans les duels, ils sont mais rugueux, et quand on voit la non-réponse des Aiglons contre Amiens dans les duels samedi soir, il faut aussi aborder ce déplacement avec des vertus un peu plus grandes quand même.
Ouais, mais je trouve que t'es capable aussi cette saison de répondre aux défis physiques. C'est une évidence, tu vas te faire secouer à Nîmes, mais vraiment, parce que c'est une équipe, comme l'a dit notre auditeur, qui met énormément d'impact. Mais c'est une équipe qui ouvre pas mal aussi. C'est un 4-4-2, ça prend énormément de risques sur les côtés, ça datube, ça défend pas énormément. Au milieu, ça reste très joueur. Attention au petit Savanier là, qui a un pied exceptionnel. C'est un joueur que j'adore depuis même la Ligue 2. Il a une capacité jeu court, jeu long sur coup de pied arrêté. Il en a mis un exceptionnel contre Dijon. Lui, c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe nîmoise. Il prend tous les ballons. C'est vraiment un magnifique joueur. Mais je pense, moi, justement, qu'il va y avoir la place dans le dos de cette défense qui est pas non plus, très rassurante par moment. Non. Avec la vitesse de Saint-Max, la vitesse de Misiane, Balotelli qui va bien finir par marquer un jour ou l'autre.
On espère.
Il y a possibilité d'aller prendre des points à Nîmes, mais il faut être prévenu. Tu vas te faire secouer, tu vas te faire rentrer dans les duels, mais tu auras des opportunités.
Adèle, votre avis ne change pas par rapport à ce qu'on vient de dire ?
Je regarde de manière un petit peu plus globale sur le contenu des matchs, parce que j'ai regardé le match contre Dijon, j'ai regardé aussi le précédent match de Nîmes.
C'était un match nul, ouais.
C'était quand même pas mal dans le jeu. J'espère me tromper, mais je pense que ça va être difficile. Juste une petite précision, les buteurs de l'époque, c'était Daniel Bravo, Carlos Curbelo et Baptiste Gentili.
Bravo. Bravo Adèle.
Et tout ça pour la gloire.
Même moi sur le site de la LFP, là, qui est pourtant plutôt bien fait en statistique, il n'y a plus la feuille de match de l'époque. Et pour l'instant, sur les Nîmes-Nice, en Ligue 1, bilan largement à l'avantage des Crocos, 16 victoires gardoises, 9 nuls et seulement 3 victoires niçoises.
Les temps ont changé.
Et la dernière, donc, elle date effectivement de cette saison 80-81. Donc il va falloir. D'ailleurs, c'était la plus large victoire de l'OGC Nice au Stade des Costières. En tout cas, à Nîmes, à cette époque-là, je pense que oui, c'était déjà le Stade des Costières. Donc pour un déplacement des Aiglons dans le Gard. Adèle, on a bien compris, vous étiez plutôt méfiant. Après, il y aura la trêve, il restera encore une dizaine de matchs, toutes compétitions confondues, avant la fin de l'année. Vous le sentez bien quand même. Il y a du mieux, c'est vrai, en tout cas dans les résultats comptablement pour l'OGC Nice aujourd'hui.
Bah, ouais, j'ai de la chance parfois de les côtoyer. Je peux dire qu'au niveau de l'état d'esprit, il y a quand même un groupe de qualité. C'est un groupe qui lâchera bien, qui lâchera rien. Il y a un coach qui fait du bon boulot, qui tient bien ses équipes. Et ça, je pense que c'est important. Après, notre principale problématique, elle est au niveau de l'efficacité. Et je pense notamment à l'efficacité offensive. Tant qu'on n'arrivera pas à résoudre ce problème de la dernière passe, on stagnera. Je pense qu'on se situera entre la 12e et la 8e place. On pourra pas aller au-delà. Je pense pas qu'on descendra en dessous. Mais on peut se projeter déjà à la trêve et on peut espérer que la l'arrivée de nouveaux joueurs puisse nous aider dans ce sens.
L'arrivée de nouveaux joueurs peut-être, mais avant ça, je pense qu'il y a encore des points à prendre. Et ce match à Nîmes, il va être important parce qu'il y a la trêve derrière, comme tu l'as dit, JB. Ouais. Il va être important parce qu'il va surtout te permettre, à mon avis, d'accrocher le bon wagon et de laisser enfin un petit peu derrière ces équipes qui sont aujourd'hui à 11, 12 points en battant Nîmes. Si tu as la chance de battre Nîmes, mine de rien, tu les mets à 6 points et effectivement, tu bascules du bon côté. Donc je pense que ce match va au moins servir à ça, et mine de rien, l'affiche fait peut-être pas rêver sur le papier, mais je pense que l'un des matchs le plus important là de ces dernières semaines, parce que pour les raisons que je viens de t'évoquer là, il faut basculer enfin dans le bon wagon.
Mais on parlait d'efficacité, mais c'est surtout sur le plan offensif. Balotelli, c'est 0 but. Saint-Maximin, c'est 2 buts en Ligue 1. Et Misiane, pour l'instant, c'est 0 but en Ligue 1. Ouais. C'était 3 titulaires en attaque.
Il y a un problème.
C'est quand même assez problématique. Bien sûr. T'es en droit, encore une fois, d'attendre beaucoup plus de ces joueurs-là, notamment de Saint-Maximin, qui un joueur qui peut être tellement fabuleux, mais en termes de statistiques, il faut qu'il se mette dans la tête que c'est pas suffisant. C'est un joueur, pour moi, qui doit être
Bah lui, il espère en plus aller haut, viser des top clubs. Il doit être à 10 buts, 10 passes décisives au minimum cette saison. Et un gars comme Misian aussi doit viser 10 buts. Balotelli, normalement, ça doit viser 10 buts. Mais voilà, maintenant, il faut le prouver sur le terrain. Et mais c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait depuis en début de saison. C'est moi, je trouve qu'il y a la qualité dans cet effectif.
C'est pour l'instant 18e attaque de Ligue 1.
Hein. Ouais, c'est là où on peut bizarrement y voir du positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en être là, avec une attaque au point mort, ça ne peut que te laisser imaginer que le jour où, comme tu le disais Vincent, Mario va commencer à marquer et que Misian retrouvera un peu de confiance et les chemins des filets, quand Saint-Maximin, même si Saint-Maximin, moi j'ose espérer Lucien Favre s'il a un petit peu cassé les dents, Patrick Vieira y arrivera peut-être, mais je pense qu'il y a un gros travail avec Alan Saint-Maximin, on est tous conscients de son potentiel.
Encore, il y a du mieux par rapport au tout début de saison.
Mieux, bien sûr qu'il y a du mieux, mais c'est un garçon qui a une marge de manœuvre, de progression.
La problématique aussi.
Donc il va falloir trouver
la San Plea aussi avec Mario, c'était pas souvent évident.
Mais voilà, Plea, il était pas mal critiqué, mais c'était quand même vachement chouette de jouer avec un gars comme Plea.
Et ça a fini par marquer pas mal de buts.
En plus,
il faisait les efforts à la place de Mario.
Si tu regardes depuis le début de saison, combien d'occasions il s'est créé quand même. Mais de vraies occasions, franchement, il est à 5-6 cm d'être à 5 buts.
Il en a eu énormément.
Vincent, porte-parole, on n'oublie pas le hashtag, il faut sauver Méziane.
Non, mais je sais pas, je le connais même pas, ça. Mais...
Non, mais c'est vrai quand on voit ce qu'il y a sur le terrain, c'est vrai.
D'être son pote ou quoi, je bois pas des coups avec lui. mais franchement, ouais, vous regardez tous les matchs depuis le début de saison et ça se joue à rien qu'il soit à 5-6 buts. Hein.
Carrément. Adèle, merci beaucoup de votre appel et de votre fidélité à 100% Aiglon. Bonne soirée. Ça et vous revenez ici quand vous voulez.
Ciao. 100% Aiglon. Toute l'actualité de l'OGC Nice.
Est-ce qu'on se tente quand même au pronostic alors, Nîmes-Nice, Sébastien Serrano?
Ouais, on va exploser le compteur offensif, on va s'imposer 2-1. non, quand même.
Vincent,
victoire niçoise, ouais.
Combien?
1-0 Balotelli.
1-0 Balotelli. Ah,
je dis ça à chaque fois en fait depuis une saison.
C'est comme Mario, au final ça finira par marcher.
Moi j'espère aussi un but de Mario. Je veux recommander. Mario. Non mais on va gagner.
Fou, 3-0 pour un score.
Non, j'avais dit 3-0.
Tu peux pas pour tes auditeurs.
J'avais dit 3-0.
Avant l'émission, t'as dit 3-0.
Non, t'as dit 3-0 pour Nice face à Amiens. Et pour ce match-là, un petit 2-1, ça me va. Peut-être un peu plus, parce que c'est vrai qu'Amiens marque aussi. Allez, un 3-2 alors.
Football champagne.
3-2.
Oh la vache.
Comme en coupe face à Auxerre. Bon, juste blague à part. Il est important de s'imposer, en tout cas Vincent, avant la trêve, parce que ça permettrait au Gym effectivement de rester dans la bonne partie de tableau et d'aborder les 6 derniers matchs avant la fin de la phase aller sereinement.
Ouais, il y a un calendrier qui est plutôt abordable.
On reçoit Lille, déplacement à Guingamp, on reçoit Angers, on va à Monaco, on reçoit Saint-Etienne et on termine à Strasbourg.
Voilà, tu fais une belle performance à Nîmes. Ce match contre Lille, il devient de suite assez emballant. Donc il faut se dire que justement il y a la place pour être dans le très bon wagon. Derrière Paris, il y a des équipes comme Montpellier, comme Lille, ça joue pas forcément la folie, mais regardez Montpellier, tout le monde disait Montpellier, on se fait chier à les regarder, mais Montpellier hier 3-0, ils sont deuxième.
Sébastien. Et t'as cité Vincent les prochains adversaires de l'OGC Nice, tu parles de Lille, de Saint-Étienne, on va avoir la chance de jouer des équipes joueuses. Et honnêtement, je pense que ça peut. Alors, bien sûr que ça va être dangereux. Hein, tous les matchs, on le sait, tous les week-ends sont compliqués. Ça, c'est une phrase de footballeur. Mais je pense qu'il y aura la place sur ces rencontres-là. Il y a moyen de bien finir l'année. Il va falloir être épargné aussi par les blessures. Et Pierre Lesmelou qui reviendrait.
Ça serait une bonne nouvelle.
Toi, c'est ton ami, hein, Lesmelou.
Allez, je me mets à l'épreuve. Très vite, on arrive à la fin de cette émission. Petite séance dédicace, tiens. Allez, donner du courage aux Aiglons. Ça se passera au magasin Conforama, situé dans le centre commercial Nice-Valais, qui est juste derrière l'Alliance Riviera. Il y aura Benitez, Tamézé, Burner, Walter et Makengo. Ça sera à partir de 17h ce mercredi. Donc allez-y. Merci Vincent Melichini.
Merci à toi,
Julien. Merci ce matin. Merci Sébastien Serrano. Je sais que c'était sur TV.
Plaisir, mon cher.
Et je remercie également Pierre-Luc Castelli qui m'a remplacé au pied levé la semaine dernière parce que j'avais un heureux événement dans la famille, à l'essence de ma deuxième fille.
Félicitations.
Et il a assuré comme d'habitude avec mes inséparables compères Patrice Alberganti et Vivien Seller. Je les embrasse également. Et bon anniversaire en retard, Sébastien Serrano.
Merci, c'est gentil.
19 ans.
Au moins. De carrière.
Merci de votre fidélité à 100% Aiglon. On revient, ça sera samedi soir, 19h45, prise d'antenne sur France Bleu Azur avant le coup d'envoi de Nîmes-Nice à 20h.